matin famille, ça continue toujours sur Média et comme tous les samedis, nous sommes en direct avec Dr Nouhaïda Kharat, nutritionniste et diététicienne. Bonjour docteur, comment allez-vous ?
Bonjour Salma, très bien et vous ?
Ça va très bien, on est comme toujours ravis de vous avoir avec nous.
Le plaisir est à moi.
Merci. Et comme je disais tout à l'heure, eh bien aujourd'hui, on va parler caféine ou plus précisément, eh bien comment les effets de la caféine sur notre corps. Et justement, on va commencer directement par cette question. Comment la caféine impacte notre corps ?
Alors déjà, comme tout le monde le sait, la caféine est une substance stimulante et c'est une substance qu'on consomme beaucoup dans le monde, donc, que ce soit par infusion sous forme de thé ou de café, ou par exemple pour les sportifs à travers des capsules ou quelques boissons énergisantes où on a la présence de caféine. Donc une fois on ingère, soit à partir de compléments de caféine, soit sous forme d'infusion ou parfois c'est des perfusions qu'on introduit dans la circulation sanguine, et cette caféine elle va modifier le fonctionnement de l'organisme dans environ 45 minutes. Ouais. Donc en ce qui concerne un peu sa structure moléculaire, elle ressemble à l'adénosine. L'adénosine c'est tout simplement un produit chimique qui est présent dans les cellules de l'être humain mais qui agit dans le cerveau comme un dépresseur du système nerveux. Donc dans des conditions normales, l'adénosine elle favorise le sommeil mais aussi elle supprime l'excitation nerveuse. Et du coup, la liaison à l'adénosine, elle provoque aussi la dilatation des vaisseaux sanguins du cerveau, ce qui va augmenter l'oxygénation pendant le sommeil. Donc, au réveil, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les niveaux d'adénosine dans le cerveau, ils augmentent à fur et à mesure que la journée avance. Et du coup, ces cellules nerveuses, elles se comportent avec la caféine de la même manière qu'avec l'adénosine et se lient donc ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est la caféine ? Elle part et bloque les récepteurs de l'adénosine, mais sans réduire le niveau d'activité cellulaire, mais au contraire, elle l'augmente. Et donc, où est-ce qu'on pourra, par exemple, trouver cette caféine ? Comme on a dit, les sources sont le café, le thé, parce que la théine, c'est la même chose que la caféine. Oui. On a le chocolat, on a les sodas, on a les boissons énergétiques. Donc, on a quand même certains aliments qu'on consomme le jour au jour, à part le café qu'on connaît, que ce soit noir ou au lait, où on peut trouver de la caféine autrement.
D'accord. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études sur la dose de café à consommer. C'est vrai qu'on se perd un petit peu à travers toutes les recommandations. Alors, c'est quoi exactement la dose de café à consommer en une journée pour un adulte ?
Alors pour un adulte, on conseille toujours de ne pas dépasser les 4 tasses par jour.
D'accord.
Parce que ça peut entraîner des effets secondaires où il y a des personnes qui peuvent carrément mal la tolérer. Exactement. Donc, dans une moyenne de 3 à 4 tasses par jour, on est bien. Parce que si on dépasse la quantité, ça va nous donner peut-être un effet contraire.
Ah, d'accord. Donc, en fait, plus on consomme de café, moins ça aura d'effet sur notre corps.
Soit il aura plus d'effets négatifs.
OK.
Soit on peut être désensibilisé et qu'elle ne fasse plus d'effet. Soit elle peut, par exemple, nous rendre encore plus nerveux, encore plus sensibles aux effets qu'elle peut nous faire. Donc, c'est toujours conseillé qu'on reste dans la norme de 3 à 4 tasses de café. S'il y a des jours où on arrive à 5 tasses de café, ce n'est pas la fin du monde, mais que ce ne soit pas une habitude du jour au jour.
Exactement. Et est-ce qu'il y a des bénéfices pour la santé ? Est-ce que la caféine peut être bonne pour la santé ?
Alors la caféine, moi je dirais c'est une bombe à bienfaits sur la santé. Déjà, elle exerce une action vasodilatatrice qui améliore les migraines et les maux de tête, ce qui explique que beaucoup de médicaments sous forme d'analgésie contiennent cette caféine. Mais elle est aussi à améliorer le rendement physique et mental, et les stimuler la sécrétion de l'acide au niveau de l'estomac, qui va nous aider à digérer mieux. Et sur le plan digestif, elle prévient beaucoup de pathologies quand on les calculs rénaux, elle protège face à des troubles hépatiques comme la cirrhose par exemple. Sinon, il est connu, et c'est ce qu'on entend beaucoup dire sur le café, c'est qu'il a des propriétés diurétiques. Donc, elle aide beaucoup pour les personnes qui souffrent de rétention d'eau, et on la conseille tout de même. Il a aussi une action stimulante sur le cœur en augmentant la fréquence cardiaque, le flux sanguin et la tension artérielle. Donc, pour les personnes qui souffrent de beaucoup de chutes de tension, le café, ce serait un bon remède, mais toujours avec modération.
Exactement.
Il y a aussi des personnes, ou plutôt, je vais dire, des études qui prouvent qu'elle a un effet brûle-graisse. Parce que il y a des études qui expliquent plus précisément que le fait de prendre un café, quand on dit un café bien chargé, là on va parler plus ou moins de 3 mg de caféine sur le kilo. Donc si on prend ce café bien chargé 30 minutes avant de faire un exercice physique aérobique, donc ceci va augmenter le métabolisme des graisses.
D'accord.
Donc et surtout si on pratique cette activité physique pendant l'après-midi et non pas pendant la matinée. Il a aussi un effet laxatif pour les personnes qui ont des troubles de transit intestinal, surtout s'ils souffrent de petites constipations. Donc il est dans ce sens. Et aussi, c'est une source très riche en antioxydants qui va prévenir plusieurs maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer ou le Parkinson. Et améliore le métabolisme de glucose chez les patients diabétiques, ce qui peut même réduire la probabilité de souffrir ou d'avoir le diabète type 2. Et aussi, il contient des composants phénoliques qui ont des propriétés antioxydantes, qui vont premièrement réduire le stress oxydatif et automatiquement l'inflammation des neurones. Donc, ensemble avec d'autres composants bioactifs du café, ceci va vraiment diminuer ou réduire la production d'un peptide qui s'appelle la protéine bêta-amyloïde, qui est un facteur de risque pour le développement de maladies comme l'Alzheimer. Donc, regardez le nombre de bienfaits qu'on peut trouver vraiment chez en fait dans la consommation d'un café.
Exactement. Non, et c'est vrai que il y a eu plein d'études sur les bienfaits du café. Comme vous avez dit très bien, ça a vraiment beaucoup de bienfaits. Mais justement, est-ce qu'il y a des gens, voilà, est-ce qu'il y a des pathologies, des gens qui ont des pathologies qui ne doivent vraiment pas consommer du café ou qui doivent en consommer avec modération?
Alors déjà, on va commencer par les femmes enceintes et allaitantes. On déconseille toujours la consommation de café. Et on va partir aussi sur les personnes qui sont intolérantes au café. C'est très rare d'entendre qu'on est intolérant au café, mais cette intolérance, elle peut se transmettre ou on peut la sentir dans notre corps à travers quelques symptômes très très simples qu'on va ignorer. Mais il y a des personnes qui le sentent vraiment, qui sont intolérantes à la caféine. On a aussi des personnes qui souffrent de maladies cardiaques. Pourtant, on a dit qu'il est bien parce qu'il protège notre système cardiaque, mais il y a des personnes qui en souffrent déjà de pathologies. Donc, la consommation de caféine, ça ne va qu'aggraver leur situation. Donc, dans ce cas-là, on la déconseille. Mais aussi, les personnes qui souffrent de troubles digestifs, qui ne peuvent pas la digérer ou à qui ça provoque peut-être des ballonnements, des personnes qui s'énervent rapidement, donc on ne va pas encore leur stimuler le système nerveux et les rendre plus nerveuses, les personnes qui ont des troubles de sommeil parce que la caféine peut aussi provoquer l'insomnie. Et aussi, il faut savoir qu'il y a eu des études qui ont prouvé que le fait de dépasser la dose de café au-delà de 6 tasses par jour, ça réduit le volume cérébral, mais aussi ça augmente d'un 53% le risque de souffrir de démence.
Ah oui.
Donc dans ce cas-là, pour cela, tout à l'heure, quand on a parlé de dose, c'est préférable de ne pas dépasser 3-4 tasses, mais comme on a dit, de temps à autre, si on atteint les 5 tasses, ce n'est pas la fin du monde, mais que ça ne soit pas une habitude, parce que, comme je viens de mentionner, ça peut impacter le système cérébral.
Exactement, à consommer avec, de toute façon, comme toute chose, à consommer avec modération.
Exactement.
Et justement, c'est vrai que par exemple, au Maroc notamment, on est pas mal, on est introduit au café jeune avec le fameux café au lait. C'est vrai que en ce moment, beaucoup de parents se demandent, est-ce que à quel âge déjà on peut commencer à mettre du café, donner à ses enfants ce fameux café au lait? Et surtout, est-ce que c'est sain pour les enfants assez jeunes?
Alors, si on parle de café tout seul, un café noir, que ce soit léger ou un peu fort, on peut le commencer à partir de l'âge de 15-16 ans.
D'accord.
Là, on a déjà un enfant qui est en état d'adolescence, mais quand même à un certain âge avancé. Et à l'âge plus jeune, ça peut être la cause de plusieurs ballonnements, mais surtout si on le consomme avec du lait. Parce que, pas que pour les enfants, mais même pour les adultes, le mélange lait et café ça entraîne des troubles digestifs énormes, des problèmes
Oui.
d'acidité, des problèmes de gastrite peut-être, des problèmes de gaz et ballonnement, tout simplement parce que c'est très difficilement digérable quand on mélange du lait et du café. C'est au niveau, quand on parle de digestion, là on parle au niveau de composition chimique. Le fait qu'on rassemble les deux composants, le lait et le café, à ce moment-là, ça devient plus lourd pour notre digestion. Donc,
D'accord.
l'idéal, ce serait de ne pas leur donner du café au lait, mais si on veut introduire le café doucement, ça pourrait être à l'âge de 16 ans, par exemple, mais toujours en commençant par des faibles doses de café et un café qui va être très, très léger, pour ne pas brusquer l'enfant dès la première fois. Parce que tout de même, ce n'est pas une obligation de prendre du café, on est bien
Oui, bien
d'accord, même
sûr.
s'il a beaucoup de bienfaits sur notre santé. Il y a des personnes, par exemple, pas forcément qui le tolèrent mal, mais je vous dirais, à titre d'exemple, moi, en tant que personne, je ne consomme pas du café ni noir ni avec du lait. Du lait, ça me dérange côté digestif, mais café noir, j'ai toujours eu du mal à l'insérer dans mon alimentation quotidienne ou hebdomadaire.
Ah, je
Pour
vois.
la simple raison que déjà, pour prendre du café noir, l'idéal, ce serait de ne pas le consommer avec du sucre, parce que après tous les bienfaits qu'on vient de mentionner, ils seront annulés.
Oui.
Et du coup, si on le prend en tant que café noir, moi, personnellement, par exemple, des problèmes dès que je le vois, peut-être c'est parce que c'est fort pour mon estomac, j'ai automatiquement des nausées, des envies de vomir.
Ah
Donc, ça ne
oui.
veut pas dire que le café, il a des bienfaits et que je dois le prendre à tort et à travers, mais qu'en parler, je dois souffrir avec. Donc, on essaye de personnaliser ça en fonction de la personne. Il y a des personnes qui tolèrent, il y a des personnes qui tolèrent pas, malgré
Exactement.
les bienfaits qu'on vient de mentionner.
Exactement. Et vous disiez aussi le café au lait, le lait peut être trop lourd. C'est pour ça que beaucoup de gens maintenant choisissent par exemple des laits végétaux ou remplacent pardon le lait animal par le lait végétal. Ça permet aussi de rendre le café un peu moins lourd, je suppose, non?
Absolument. Après, ça reste quel type de boisson végétale, parce qu'on ne va pas appeler ça lait végétal. Les laits, c'est d'origine toujours animale. Donc, c'est
Oui.
des boissons végétales qui peuvent être préparées à base. Et j'insiste sur le préparer parce que ce qu'on trouve au niveau industriel, ce n'est pas une composition idéale à consommer. Parce que quand on lit l'étiquetage, on trouve qu'on a 2% de l'ingrédient principal végétal et le 98%, c'est de l'eau, du sucre,
Oui.
des arômes, des produits chimiques qui n'ont aucune valeur nutritionnelle et qui n'ont aucun apport bénéfique pour notre corps. Donc l'idéal, si on souhaite tout de même consommer du lait, pardon, du café avec une boisson végétale pour atténuer la force de ce café, je propose toujours qu'on prépare nos boissons végétales à la maison, que ce soit une boisson d'amande, une boisson de noix de
D'avoine.
cajou, d'avoine, de riz. L'idéalement, ce serait plus conseillé d'utiliser celle des oléagineux parce que on connaît que le riz et l'avoine, ça reste toujours des féculents, donc on a toujours des carbohydrates. Et quand ça va être mixé, donc on n'aura plus de fibres, donc automatiquement ce serait un sucre absorption rapide. Mais ça reste une meilleure proposition que le lait animal quand on parle de mélange café et lait.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, docteur Nouraïla Khalat, pour toutes ces informations extrêmement intéressantes autour de la caféine. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et diététicienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Salma, on se dit à samedi prochain.
À samedi prochain et très bonne journée.